Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce jeudi soir 23 décembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran affirme avoir mis au point lors de ses importants exercices militaires un système antimissile monté sur des chars. La guerre terroriste a été menée contre la Syrie parce que ce pays a mis en échec les projets de l'Occident dans la région, selon le vice-ministre syrien des Affaires étrangères. La CEDEAO attend des autorités de transition maliennes un calendrier électoral précis avant la fin de l'année. Et l'Organisation mondiale de la santé estime que les doses de rappel contre le coronavirus ne suffisent pas à affronter la pandémie en cette période. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. L'Iran a annoncé avoir mis au point un système antimissile monté sur la tourelle de char Carrar de type T-72M pour les protéger en cas d'attaque, a annoncé l'agence Fars News au troisième jour de manœuvre militaire dans le sud du pays. Le système a été testé et sera installé sur la tourelle de char. Il pourra dévier tout type de missile en brouillant leur système, a indiqué l'agence. Le général de brigade Mohammad Pokpour, commandant des forces terrestres, des gardiens de la révolution islamique, a affirmé les canons de ce char peuvent tirer avec précision la nuit et ont une portée de 3 km, soulignant que les forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique ont testé des tactiques appropriées aux nouvelles menaces de manière à créer des changements d'ampleur et de tournure. Par ailleurs, le général Pokpour a commenté les capacités des drones en expliquant « Nous maîtrisons la technologie de production et de fabrication des drones. Ces derniers sont offensifs et capables de toucher n'importe quelle cible dans le cadre de leur portée. » Il a ajouté « Nous avons exploité l'expertise des spécialistes, des industriels et des industries de défense et des comités du djihad pour atteindre un niveau d'autosuffisance et nous avons équipé ces drones en missiles guidés que nous avons évalués durant ces manœuvres. » et à propos des techniques de guerre électroniques, il a révélé qu'elles se sont beaucoup développées par rapport au passé, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Mardi, l'Iran a commencé d'importants exercices militaires de 5 jours. Et mardi, l'Iran a tiré plusieurs missiles depuis la mer à la terre dans le cadre de ses manœuvres de 5 jours dans la province, dans les 3 provinces du sud du pays. Durant ces exercices militaires, nous avons utilisé des armes et des munitions entièrement iraniennes, a affirmé le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'amiral Ali Reza Tangsiri. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Bachar Jafari, a affirmé que la guerre terroriste avait été menée contre la Syrie il y a 10 ans parce que ce pays a mis en échec de nombreux projets occidentaux dans la région. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne Al-Mayadin, Jafari a indiqué que la décision de la direction syrienne, de l'armée des Syriennes et du peuple syrien est de mettre en fait fin à l'occupation turque de certaines parties dans le nord et le nord-ouest du pays, à l'occupation américaine de certaines parties dans le nord et le sud-ouest du pays et de récupérer le Golan des Syriens occupés par l'occupation israélienne. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères a souligné que les administrations américaines successives utilisent les réseaux terroristes comme moyen pour réaliser leur agenda en Syrie et en Irak. Bachar Jafari a souligné que la cause palestinienne est la cause centrale de la Syrie, qui affirme toujours sa position constante, se soutenant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant, dont la capitale est Al-Quds, avec la garantie du droit de retour des réfugiés, conformément à la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La CEDEAO attend des autorités de transition malienne un calendrier électoral précis avant la fin de l'année. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest attend des autorités de transition malienne un calendrier précis d'ici la fin de l'année, a confié à la presse le médiateur de l'organisation à l'issue d'un entretien avec le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta. L'ancien président nigérian et médiateur de l'organisation sous-régionale et dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, est arrivé dans la capitale malienne. C'était mardi. La rencontre avec le président de la transition est très bien passée, a-t-il confié à la presse. Nous espérons que d'ici la fin de l'année vont sortir toutes les décisions, notamment les recommandations et un calendrier électoral pour la poursuite des événements au Mali, a-t-il souhaité en assurant qu'il reviendra en janvier prochain faire le point. La situation au Mali est aussi liée à la transition qui est en cours dans ce pays. Donc, il fallait venir avec les décisions, les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO, avec l'espoir également que d'ici la fin de l'année, nous aurons tout un calendrier en place pour l'organisation d'élections, qui est l'une des recommandations phares de la CEDEAO, a-t-il précisé encore. Libye, la commission électorale propose de reporter l'élection présidentielle au mois prochain. La haute commission électorale nationale libyenne a proposé mercredi de reporter au 25 janvier le premier tour de l'élection présidentielle qui était prévu pour ce vendredi. Il a ajouté dans un communiqué que cette proposition est assortie à la condition que la Chambre des représentants prenne les mesures nécessaires pour lever les entraves au processus électoral. la haute commission électorale nationale libyenne a par ailleurs défendu sa décision d'avoir invalidé un certain nombre de candidatures à ce scrutin, celles-ci ne répondant pas aux conditions requises. Pour elle, l'écart entre les réalités politiques et les décisions judiciaires prises a entraîné une entrave à l'annonce de la liste définitive des candidats. L'Organisation mondiale de la santé a estimé, c'était mercredi, que les doses de rappel contre le coronavirus ne suffiront pas à affronter la pandémie en cette période. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre l'illusion qu'il suffirait d'administrer des doses de rappel pour se sortir de la pandémie de COVID-19. Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coup de doses de rappel, et les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu, a déclaré le directeur général de l'OMC lors d'un point de presse à Genève. Depuis le mois de novembre, c'est le variant Omicron qui se répand très vite. Il est désormais largement dominant aux États-Unis avec 73% des nouvelles contaminations. En France, où 20% des cas positifs relèvent désormais d'Omicron, il pourrait devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel An. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle concernant en fait cette crise sanitaire due à ce nouveau variant de la COVID-19, c'est-à-dire Omicron, notre journal Information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Des doutes sur le retrait des forces US d'Irak. La résistance est décidée à les déloger, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. C'est avec suspicion que les deux factions irakiennes ont accueilli l'annonce faite par le porte-parole des opérations conjointes irakiennes du retrait des forces américaines de la base Ain al-Assad à Al-Anbar. D'autant que les déclarations américaines, notamment celles du commandant du CENTCOM, le général McKenzie, sont très claires. Les 2500 soldats américains dans ce pays vont y rester seuls. Leur mission sera changée. En annonçant la fin de celle des combats, le gouvernement irakien a évoqué un soutien logistique et d'entraînement des forces armées irakiennes. Interrogé par le quotidien libanais Al-Akhbar, Abbas al-Ardawi, un responsable du mouvement droit, assure que le facteur de confiance envers les Américains est nul. Le retrait de la base est certes très important, d'autant que l'ex-président américain Donald Trump avait déclaré qu'il ne permettra le retrait d'Ain al-Assad qu'après avoir perçu de l'Irak l'équivalent de 2 milliards de dollars, qui est le coût de son édification, a-t-il affirmé encore. Et d'enchaîner, mais ceci ne veut pas dire que les Américains sont sérieux. Ils pourraient pallier dans la base d'Al-Datan, située à la frontière entre l'Irak, la Jordanie et la Syrie, ou à travers les bases qui les établissent à Deir-ez-Zor, à l'est de la Syrie. Selon lui, les Irakiens ont besoin d'un retrait réel. Quant au contournement, ils ne va pas altérer leur volonté, il ne sera pas permis, a-t-il poursuivi encore. Le dirigeant irakien indique que le gouvernement irakien non plus n'a pas confiance en les Américains parce que leurs déclarations récentes portent des messages négatifs, notamment lorsque McKenzie a dit depuis 10 jours qu'il n'y aurait pas de retrait. Il y a un réel défi pour le gouvernement parce que la résistance est décidée à faire face à l'occupation lorsque le délai du 31 décembre parviendra à terme et ne permettra pas la présence américaine après avoir accordé assez de trêves, a-t-il précisé. Est-ce ce responsable irakien de préciser l'influence des Américains dans l'opération politique irakienne vient du fait qu'ils soutiennent les forces corrompues et impopulaires. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui que ceux qui sont les plus attachés au maintien des Américains sont les corrompus qui craignent que leur dossier ne soit dévoilé au grand jour et ceux qui n'ont pas d'assises populaires et qui veulent s'imposer comme un fait accompli, a-t-il conclu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ces importants exercices militaires que le corps des gardiens de la révolution islamique est en train d'organiser dans le sud de l'Iran. Nous avons utilisé des armes et des munitions entièrement iraniennes, a affirmé le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'amiral Ali Reza et Tangsiri. Et toujours dans le cadre de ces importantes manœuvres militaires organisées par le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est le troisième jour de ces manœuvres. Et il s'agit en fait de manœuvres militaires de 5 jours. Toujours dans le cadre de ces importants exercices militaires, l'Iran a tiré plusieurs missiles balistiques depuis la mer et la terre. Nous avons effectué des exercices visant à détruire l'ennemi avant qu'il ne s'approche des îles d'Ormuz, a précisé l'amiral Tangsiri. Le golfe Persique est notre maison, un lieu de paix et de stabilité, et de quiconque met en péril notre région et nos intérêts aura affaire à une riposte décisive, a souligné encore le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. On va vous en parler dans le cadre de l'émission avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous. Merci pour votre invitation. Bonjour aux téléspectateurs et bien sûr bonjour à votre invité.
Et notre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Navostine. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Develet.
Monsieur Dortiguier, quelle est, d'après vous, l'importance de ces exercices militaires organisés dans l'état actuel des choses par le corps des gardiens de la révolution islamique, surtout dans le contexte actuel, Monsieur Dortiguier, qui est marqué par, en fait, des menaces qui avaient été proférées ces derniers temps contre l'Iran et contre les intérêts nationaux de l'Iran?
Il s'agit là d'un acte dissuasif. C'est ça, cette vertu dissuasive, disons, de ces manœuvres qui était, à notre avis, la chose la plus frappante, évidente. Et le corollaire, ce qui s'ensuit, c'est que c'est la note, ce que vous avez dit, que vous avez remarqué, à savoir que ces manœuvres se font avec de l'armement entièrement iranien, que, disons, cela démontre aussi la capacité, disons, d'autonomie de l'Iran en ce domaine. Et le fait d'avoir évoqué justement cette région comme étant donc une sorte de demeure commune fait allusion, bien sûr, vise, disons, une puissance quantité sioniste, naturellement, qui s'agite et qui essaie, disons, de menacer, non pas qui essaie, mais qui menace l'Iran en essayant de faire peur à ses propres alliés, voyez-vous, en disant que l'Iran est une puissance qui va déséquilibrer, etc., la région et autres. Je dirais que cette pression israélienne se fait non seulement sur les États-Unis, comme on le dit, mais également sur d'autres puissances, que ce soit la Russie et autres, voyez, et l'Europe, bien sûr. Et donc, je crois que là, c'est une affirmation de la force que fait l'Iran, de sa force, pour rétablir le calme, justement. Vous savez, c'est cela que je vois comme le trait principal, non pas l'intérêt, mais la vérité de ces manœuvres. Et elles se fondent, je crois, avec les paroles, disons, que l'on entend de la part des dirigeants de cette opération dans le sud de l'Iran, nous semblent rassurantes, disons. Elles montrent qu'ils ont confiance en eux-mêmes, qu'ils ont confiance, disons, dans leur pouvoir dissuasif, et qu'ils appellent justement les pays environnants, vous voyez, à se joindre à l'Iran pour éviter justement toute intervention extérieure. C'est cela, à mon avis, qui est une caractéristique, disons, de cette opération.
Merci beaucoup. Comme vous l'avez fort bien dit, M. Dortiguier, l'amiral Tangsiri a dit que voilà, ces manœuvres militaires sont un message aux pays de la région également. Nous allons y revenir plus tard dans le cadre de cette émission. Monsieur Dortiguier, maître de volée, venez d'entendre les explications de l'analyse de M. Dortiguier. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Oui, bah écoutez, dans l'essentiel, je m'inscris dans les propos du professeur Dortiguier. J'ajouterais que ces manœuvres ne sont pas les premières. Nous avions eu, il y a de cela quelques temps, les exercices Velaya, les exercices Grand Prophète. Donc tout cela s'inscrit dans une séquence qui vise à démontrer à tous ceux qui seraient tentés d'attenter aux intérêts légitimes et souverains de l'Iran, que l'Iran dispose non seulement de tous les moyens technologiques pour assurer sa défense, mais que, vous l'avez précisé, c'est intéressant, de par les déclarations par l'amiral en chef des opérations, cette manœuvre, la dernière en date, visait à préempter les ennemis de la République islamique d'Iran d'essayer d'atteindre aux intérêts de celle-ci, ce qui veut dire que quelque part, on peut penser que s'il doit y avoir une éruption d'hostilité, l'Iran prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que non seulement ses ennemis de l'Iran n'atteignent pas leurs objectifs, mais ne soient même pas en mesure de le faire. Je crois que c'est ça qui a un petit peu échappé aux analystes, c'est cette visée un peu préemptive, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres théâtres d'opération et incluant d'autres puissances, confrontées un peu à cette même série de provocations permanentes. C'est que nous sommes disposés essentiellement à nous asseoir, discuter, négocier après avoir défini des termes de référence sur tout un tas de dossiers, mais qu'il ne faut pas non plus abuser de notre légalisme, de notre constance dans notre posture, parce que s'il s'avère que nous devons agir pour le bien de la nation de manière préemptive, nous le ferons. Et en cela, effectivement, cela répond de manière complètement asymétrique, pour le coup, à ce que le professeur Dortiguier énonçait dans son introduction sur l'agitation saccadée et frénétique des provocateurs sionistes depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années si on s'inscrit dans, le dossier qui nous importe, qui est quand même en toile de fond, le dossier de négociation sur le nucléaire civil. Et toutes ces déclarations intempestives récemment effectuées par les dirigeants sionistes, les allers-retours constants à Washington, les injonctions, les jérémiades. On peut penser aussi que cette visite de Benny Gantz à Abu Dhabi avait un peu pour rôle de rappeler les Émiratis à leurs engagements dans le cadre des accords d'Abraham. Vous voyez, tout cela, toute cette agitation est en contraste avec le calme et le côté méthodique avec lequel le corps des gardiens de la Révolution met en œuvre une démonstration de force, de telle sorte qu'il ne soit même pas concevable pour quiconque de penser qu'il puisse aller au-delà de la diplomatie pour accomplir leurs objectifs. Mmh.
Monsieur Dortiguier, en fait, saisissant de ce que vous venez de dire tout à l'heure, comme quoi, voilà, ces exercices militaires sont également un message à la région. L'amiral Tangsili a dit que voilà, cette manœuvre est un message adressé tout d'abord au peuple iranien, comme quoi les forces armées du pays ont les moyens, tous les moyens à leur disposition pour défendre la patrie. Il a dit que voilà, c'est un message également adressé aux pays de la région, comme quoi nous devons, c'est-à-dire nous, les pays de la région, nous devons assurer nous-mêmes la sécurité de la région, loin de toute présence et des puissances étrangères. Autrement dit, pour l'Iran, M. Dortiguier, il n'est pas question de tolérer la puissance, la présence des puissances étrangères dans la région, même si cela s'effectue, par exemple, à l'invitation de certains pays de la région, M. Dortiguier.
Oui, en effet. Ces interventions extérieures auxquelles l'amiral pense sont en réalité donc ces accords dits au nom des accords d'Abraham, etc., c'est-à-dire des propositions ou des pressions faites par l'entité sioniste en grande partie aux Émirats et autres pour pouvoir, disons, les entraîner sous prétexte de les protéger, non pas pour les protéger, mais les entraîner dans une guerre d'agression. Car souvent, l'histoire l'a montré depuis les années 50, les assauts israéliens se font par personnes interposées. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours se couvrir, voyez-vous, comme ils l'ont fait à Suez et autres, d'autres puissances. Alors, il s'agit là, bien sûr, pour l'Iran, de bien marquer qu'il y a une solidarité de tous les pays de la région. C'est-à-dire qu'on ne peut pas abandonner à d'autres qu'à soi-même, voyez-vous, la défense de son territoire. Et c'est cela qui est très important, c'est très clair à comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas en vendant son âme, je ne dis pas vendre son âme au diable, mais disons, en essayant de rentrer dans des stratégies qui ne sont pas celles favorables, qui n'ont aucun point commun avec la défense naturelle des pays de la région, qu'on arrive à défendre sa propre position. Je crois que c'est ça, c'est un raisonnement diplomatique, si je puis dire, mais que les militaires iraniens, que ceux qui ont organisé l'opération aujourd'hui, veulent faire entendre. C'est-à-dire qu'on ne peut se défendre que par une autonomie. Et les pays de la région sont appelés à vivre toujours, c'est une vérité de la palie, une vérité d'évidence. Le problème d'une région, c'est que les peuples sont liés, comme les membres sont liés à un corps, on ne peut pas les détacher. Donc le destin, il y a un destin commun, disons, de tous les pays du Golfe Persique. C'est ce que veulent dire ces manœuvres militaires iraniennes. C'est-à-dire qu'en montrant que nous ne pouvons pas, que nous pouvons rejeter toute agression, nous appelons également les autres peuples de la région à faire de même comme nous, et non pas du tout à chercher à se diviser, c'est-à-dire à faire un pacte avec des gens extérieurs pour pouvoir justement rendre cette région, disons, un champ de bataille. Et je crois que c'est une vérité, disons, large, simple à comprendre, et je crois qu'en tout cas, si même les régions, les pays, les gouvernements émiratis peuvent évidemment, entre autres, avoir leur propre politique, je pense que l'opinion publique dans tous ces pays, les pays arabes, je veux dire, autour de l'Iran, comprennent cela, en particulier les hommes d'affaires, mais également toute l'opinion publique, le peuple comprend. Voyez-vous, il y a une habitude de vie dans cette région. Et elle ne peut pas être... Ils sont dérangés, troublés par des gens qui viennent de l'extérieur, de moins qu'on puisse dire.
Et d'autant plus que l'amiral Tanxiri, M. d'Ortiguier, dit que voilà, le golfe Persique est notre maison. Et c'est, il nous incombe à nous-mêmes d'en assurer la sécurité, M. d'Ortiguier.
Exactement comme des voisins s'entendent entre eux. Bien sûr, c'est cela, comme dans un village, vous êtes organisé entre voisins. Et il s'agit, on parle d'un grand village du monde, mais il y a un grand village qui s'appelle évidemment la région du Golfe Persique. Et cette notion de maison, nous, en effet, cette image de la maison, plutôt, est tout à fait exacte, tout à fait adaptée. Et je pense que tous les peuples comprennent. Tous les peuples de la région, en tout cas, le comprennent.
Maître de Velay, là, toujours, je cite le commandant de la marine, et du corps des gardiens de la révolution islamique, et s'adressant, si vous voulez, aux ennemis, il dit que voilà, il n'est pas question pour nous de permettre aux ennemis de convoiter ne serait-ce qu'un pouce de notre terre et de nos eaux, et quiconque menace notre terre, nous lui occuperons la main, maître de Velay. Là, en fait, l'Iran est tout à fait catégorique là où il s'agit, si vous voulez, de défendre ses intérêts, maître de Velay, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et en cela, ces déclarations ne sont qu'une réponse à des provocations gratuites et intempestives de gens qui prétendent imposer leur vue du monde sur la région alors qu'ils ils n'en demandent pas la légitimité et qu'ils eux-mêmes menacent l'équilibre de la région avec un arsenal nucléaire qui n'a jamais été déclaré en violation de toutes les lois internationales sur le régime de non-prolifération. Donc c'est quand même fort de café dans ce contexte-là de permettre à ces genres d'individus de prétendre dicter le destin de la région. Et en cela, je rejoins parfaitement le professeur d'Ortiguier lorsqu'il parle de ce destin commun pour les nations du Golfe Persique. Cette réalité est plurimillénaire, elle n'a pas vocation à évoluer dans le temps, elle est immuable. Et en cela, ces exercices d'hier démontre que les intérêts qui pourraient être tentés dans certains pays par des promesses illusoires, parce que si on prend que l'exemple des Émirats Arabes Unis, dans le cadre de leur propre acquis avec l'entité sioniste, je suis désolé de le dire, mais ils se sont fait avoir, puisque la marchandise, si je puis dire, n'était pas aux normes. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour s'en apercevoir. On voit aussi maintenant déjà au Maroc les fruits d'un marché faustien entre le royaume chérifien et l'entité sioniste qui, si les choses venaient à se dégrader davantage, pourrait déstabiliser la région du Maghreb et pourquoi pas engendrer une nouvelle guerre des sables sur une portion de territoire dont les principaux intéressés n'ont même pas été consultés. Donc, il faut se méfier de ce genre de politique aventuriste, de ce genre de tentation à court terme. Et les démonstrations d'hier s'inscrivent dans ce discours général de la République islamique d'Iran, qui est de celui de dire « Nous avons vocation à vivre ensemble, nous sommes prêts à coopérer avec tous nos voisins et nous sommes prêts à assurer la sécurité collective de la région pour peu que nos voisins réalisent que leurs intérêts long terme sont avec nous et non pas avec des puissances extérieures au golfe Persique.
Monsieur d'Ortiguier, Maître de Velay vient de faire allusion à l'aspect préemptif de ces exercices militaires d'envergure de l'Iran. Hier, c'était le deuxième jour de ces exercices militaires. Aujourd'hui, c'est le troisième et il s'agit, comme je viens de le dire tout à l'heure, des exercices militaires de 5 jours au cours desquels divers types d'armements, missiles, drones, des chars et autres types d'armements seront testés et employés. Maître de Velay, en fait, vient de faire allusion à l'aspect préemptif de ces manœuvres et quel message devront tirer d'après vous, Monsieur Dorsiguier, ces provocateurs auxquels vous-même, Maître de Volée, viennent de faire allusion de ces importants exercices militaires iraniens, Monsieur Dorsiguier.
Eh bien, c'est tous ces provocateurs, n'est-ce pas, que nous connaissons bien. Que chacun comprend, chacun comprend la nature, sentent déjà qu'ils ont, si je puis dire, les pattes brûlées s'ils s'approchent, disons, de cette région du Golfe Persique. Je crois qu'ils l'avaient envisagé, en effet, car ils comptaient sur une défiance de certains pays arabes et voulaient chauffer à blanc, surtout après les campagnes du Yémen et autres, ils pensaient qu'ils avaient là trouvé une porte d'entrée, voyez-vous, pour faire peur à ces pays. Je crois que le fait très important que l'Iran exerce ses propres armes, c'est-à-dire les armes de son invention, de sa technologie, montre que démontre à tous qu'elle est une puissance durable. Ce n'est pas du tout un pays qui a reçu des armes, c'est un pays qui est capable de produire ses armes, capable d'avoir sa stratégie, et donc il faut compter avec lui. Et ceux qui peuvent rêver, disons, d'accords souvent égoïstes, voyez-vous, pour leur propre poche, avec ces personnes, ces intrigants internationaux, eh bien, à mon avis, seront amenés à exercer d'abord leur bon sens, c'est-à-dire à la réflexion. Je crois que c'est là un apaisement, à notre avis, de la situation internationale. C'est assez paradoxal de dire que des manœuvres militaires sont un apaisement, mais là, je le vois ainsi. Et l'allusion qu'a faite Maître de Velay, à laquelle je pensais aussi, par exemple, à l'Afrique du Nord, vous savez que les sionistes disent que c'est l'Algérie qui est poussée, par l'Iran, voyez-vous, à avoir telle et telle attitude. Non, tout ceci est vraiment un montage, voyez-vous. Je crois que ces manœuvres, justement, auront certainement aussi une influence en Afrique du Nord même, vous voyez. Je crois que là, il s'agit d'un recul de fait, un recul nécessaire, un recul logique, disons, de l'entité sioniste et de ses provocateurs, vous voyez. Et je crois que ceci aura de l'influence également, permettez-moi d'ajouter, et sur les grandes puissances. En particulier, cela va surprendre à ce que je dis, mais en particulier sur les États-Unis eux-mêmes, voyez-vous. Je crois que là, je sais que c'est paradoxal ce que je peux dire, mais je crois que l'Iran a rendu un service certainement, peut-être plus qu'on ne le croit, au futur de la nation américaine, qui elle-même est étranglée par ses aventuriers internationaux.
Maître de Velay, un dernier mot, s'il vous plaît, pour conclure notre débat en quelques phrases, s'il vous plaît.
Oui, eh bien, il faut rester vigilant puisque ces provocateurs internationaux, comme le dit si bien le professeur Dorsiguier, n'ont cure des leçons de l'histoire et pensent pouvoir constamment, au travers d'une stratégie de fuite en avant, divertir l'attention, créer des golems qui n'ont pas lieu d'être, et envoyer surtout, sacrifier les intérêts de ce que eux considèrent leurs alliés. Sur l'autel de leurs propres intérêts. Donc il faut en cela être prudent, non pas par rapport aux pays comme la République islamique d'Iran qui comprennent parfaitement la psychologie des provocateurs en question, mais sur le fait que le contrôle de ces provocateurs sur les appareils étatiques de beaucoup d'États en Occident fait que malheureusement, tout est possible et une erreur de calcul peut entraîner effectivement une escalade brutale.
Merci infiniment, Arnaud de Volley, juriste français, spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Pierre Dorsiguier, philosophe français, spécialiste des questions internationales, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Thank you.
démocratique des courants takfiristes. Le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham tente d'améliorer son image en se tournant vers ce que ses partisans appellent le djihad local, en prenant ses distances avec ses anciens alliés purs et durs. Le Hayat Tahrir al-Sham tente d'obtenir une reconnaissance politique internationale et de modifier son statut d'organisation terroriste grâce au soutien de ses alliés étrangers. Le 15 septembre 2021, Abdelrahim Atoun, le chef religieux principal du groupe takfiriste Hayat Tahrir al-Sham, a donné une conférence organisée par le gouvernement parrainé par Hayat Tahrir al-Sham dans la ville d'Idlib. Dans son discours, il a parlé du djihad et de la résistance en suivant le modèle des talibans. Abdelrahim Atoun, qui est le commandant en second d'Abu Muhammad al-Julani, le chef du groupe terroriste, est apparu dans la conférence dans une tenue moderne, abandonnant l'image stéréotypée des takfiristes, et a concentré son discours sur les similitudes entre le Hayat Tahrir al-Sham et les talibans afghans. Il s'est concentré sur les changements adoptés par le Hayat Tahrir al-Sham pour localiser ses objectifs terroristes et communiquer avec l'Occident. Le Hayat Tahrir al-Sham était auparavant connu sous le nom du Front al-Nusra et a été formé fin 2011 en tant que branche de l'État islamique en Irak qui est devenu plus tard Daesh. En 2013, le Hayat Tahrir al-Sham a rompu ses liens avec l'État islamique en Irak et a prêté allégeance à Al-Qaïda et à son chef Ayman al-Zawahiri. En juillet 2016, Abu Muhammad al-Julani a mis fin à son affiliation avec Al-Qaïda et a changé de nom pour son groupe en Jabha Fatah al-Sham, le Front pour la conquête du Levant. En 2017, Jabha Fatah al-Sham a de nouveau changé de nom lorsqu'il a fusionné avec plusieurs autres groupes militants pour créer Hayat Tahrir al-Sham. Ces changements organisationnels s'accompagnent inévitablement de changements dans les objectifs politiques et les modes d'action du groupe sans que la nature takfiriste du groupe change pour autant. Le plus important d'entre eux était que le groupe s'est imposé comme un acteur local en suivant les conseils de ses soutiens occidentaux et régionaux pour lutter en Syrie afin de renverser le gouvernement syrien. Ainsi, le Hayat Tahrir al-Sham veut faire croire qu'il a complètement rompu ses liens avec Al-Qaïda et son idéologie mondiale du djihad. Le groupe s'est également concentré sur l'établissement de sa domination sur les régions du Nord, en particulier la ville d'Idlib, en affaiblissant et parfois en éliminant ses groupes rivaux. Dans ce cadre, le Hayat Tahrir al-Sham a toujours profité du soutien d'Ankara. Début 2019, le Hayat Tahrir al-Sham a pris le contrôle des portions importantes d'Idlib et du point de passage stratégique de Bab al-Hawa qu'il partage avec la Turquie par lequel transite la majorité des marchandises et des aides. Pour renforcer sa position à Idlib, le Hayat Tahrir al-Sham a largement ciblé les derniers groupes de Daesh à Idlib, affaiblissant le mouvement Hurrat al-Din, affilié à Al-Qaïda, et arrêtant certains de ses dirigeants. le Hayat Tahrir al-Sham a également attaqué de plus petites factions terroristes composées principalement de combattants étrangers comme Jund al-Sham et leur a demandé de quitter la ville. Ainsi, le groupe takfiriste a voulu suggérer qu'il se bat contre les groupes extrémistes. Les États-Unis, la Turquie et d'autres soutiens étrangers du Hayat Tahrir al-Sham essaient d'aider ce groupe takfiriste à présenter une fausse image présentable de ses activités. Ces terroristes veulent ainsi se présenter comme un mouvement de libération et non pas un groupe terroriste takfiriste pur et dur. Les gouvernements et les médias occidentaux et régionaux soutiennent cette démarche du Hayat Tahrir al-Sham. Par conséquent, selon Abdelrahim Atoun, l'Occident et les États-Unis en particulier devraient cesser de le considérer comme une menace pour les intérêts de l'Occident. Il semble que le modèle des talibans en tant que groupe militant local, qui a été reconnu par certains gouvernements et a réussi à négocier avec les États-Unis et a finalement pris le contrôle de l'Afghanistan, a remonté le moral du Hayat Tahrir al-Sham, qui s'attend désormais à être accepté comme un groupe local capable de contrôler et éliminer les mouvements extrémistes terroristes à Idlib. Ce scénario est d'ailleurs soutenu par le gouvernement turc. L'armée mozambicaine, appuyée par des soldats des forces africaines alliées, a attaqué une base rebelle et tué 10 combattants radicaux dans le nord du pays, a annoncé le ministère mozambicain de la Défense. Et l'armée sud-africaine a annoncé mardi avoir perdu l'un de ses soldats participant aux côtés de l'armée mozambicaine au combat contre les groupes armés dans cette zone lors d'une embuscade. La province pauvre et à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en gaz, est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection takfiriste qui a tué au moins 3 500 personnes et contraint près de 820 000 habitants à fuir leur foyer. Depuis juillet, plus de 3 000 soldats africains, notamment sud-africains et rwandais, appuient l'armée mozambicaine, débordée par les groupes armés qui ont fait allégeance à l'organisation takfiriste Daesh. Dimanche dernier, les forces mozambicaines et alliées ont attaqué une base terroriste dans le district de Macomia et abattu 10 terroristes, a déclaré le ministre mozambicain de la Défense. Depuis début décembre, les terroristes ont attaqué plusieurs villages de cette zone. La situation est inquiétante, mais nos forces sont sur le terrain et dans les semaines qui viennent, nous obtiendrons des résultats positifs, a assuré le ministre mozambicain de la Défense. Lundi, un groupe de soldats venus en renfort des pays voisins du Mozambique a été attaqué par des hommes armés près du village de Chai, dans la province de Cabo Delgado. Ils ont riposté, puis se sont regroupés pour attendre un hélicoptère afin d'évacuer la zone. C'est là qu'ils ont été attaqués une nouvelle fois en embuscade et que l'un d'eux, un soldat sud-africain, a été atteint par balle et déclaré mort sur place, affirme un communiqué de l'armée sud-africaine mardi. Le président mozambicain a récemment affirmé que le nombre d'attaques terroristes avait pu être réduit par 3 au Mozambique en 2021 par rapport à l'année précédente, notamment grâce à la coopération militaire avec le Rwanda et les 16 pays de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. les forces mozambicaines, épaulées par des soldats rwandais, ont aussi repris le 8 août un port stratégique aux mains des insurgés depuis un an. Les terroristes continuent néanmoins d'attaquer régulièrement des villages et des civils et les violences s'étendent vers les provinces voisines du Cabo Delgado et jusqu'en Tanzanie, selon des témoins et des experts. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.